Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir. Christine Goémé, bonjour à tous. Aujourd'hui, les cours du Collège de France.
Lorsqu'on me demande si l'émigration influe sur mon écriture, il m'est impossible de donner une réponse précise et définitive. Sans doute parce que je suis de plus en plus persuadé que le déplacement, le franchissement des frontières nourrit mes angoisses, contribue à façonner un pays imaginaire qui finalement ressemble à ma terre d'origine. Il y va de ma propre quête intérieure, de ma façon de concevoir l'univers. J'ai choisi de ne pas m'enfermer, de prêter l'oreille au bruit et à la fureur du monde, de ne jamais considérer les choses de manière figée. Je ne suis pas devenu écrivain parce que j'ai émigré. En revanche, j'ai posé un autre regard sur ma patrie une fois que je m'en suis éloigné. Dans mes premiers écrits, tous ébauchés au Congo, je sentais qu'il manquait des pièces, que mes personnages étaient cloîtrés, respiraient à peine et me réclamaient plus d'espace. L'émigration a contribué à renforcer en moi cette inquiétude qui fonde à mes yeux toute démarche de création. On écrit parce que quelque chose ne tourne pas rond, parce qu'on voudrait déplacer les montagnes ou faire passer un éléphant dans le chat d'une aiguille. L'écriture devient alors à la fois un enracinement, un appel dans la nuit et une oreille tendue vers l'horizon.
Bonjour Alama Bankou, merci infiniment pour cette belle lecture d'une page de votre livre Le sanglot de l'homme noir, qui est en collection de poches chez Point. Vous êtes écrivain, donc on vous doit plus d'une vingtaine de livres, des romans bien sûr, mais aussi de la poésie et des essais, et des traductions, dont celle d'un texte terrible, paru aux éditions de l'Olivier. Nous en reparlerons si vous voulez bien. Vous êtes également un des signataires, et même avec Michel Lebris, un des initiateurs du manifeste pour une littérature monde. Vous êtes couvert de prix et de distinctions et actuellement titulaire de la chaire annuelle de création artistique au Collège de France. Vous êtes né en 1966 au Congo. Vous avez fait vos études en France, où vous avez longtemps vécu et où vous publiez. Vous enseignez la littérature francophone africaine subsaharienne à l'Université de Californie de Los Angeles. Vous êtes donc pleinement africain, européen et américain. Ce parcours vous permet de penser et de lire la littérature africaine de langue française d'un œil neuf. Et c'est cette originalité, c'est la singularité de votre vision très large sur ce que vous appelez les lettres noires que nous allons, si vous le voulez bien, interroger ensemble. Mais tout d'abord, comment un jeune garçon né à Pointe-Noire dans un pays alors en pleine secousse politique, 6 ans après son indépendance, comprend-il qu'un jour, il sera écrivain? Qu'est-ce qui s'est passé, Alama Bankou?
Mais je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses. Peut-être que j'ai la chance ou la malchance d'avoir eu une vie qui n'était pas celle de tous les enfants de mon époque. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, quand on voyait une famille africaine, elle était toujours multiple, 5, 6, voire même 10, jusqu'à 15 frères et sœurs. Moi, je suis né fils unique. Donc, j'étais déjà né sous peut-être le sceau de la marginalité. Être fils unique au Congo-Brazzaville est un calvaire, puisque de temps à autre, vous êtes considéré comme un petit sorcier qui est venu au monde en fermant le ventre de sa maman pour bénéficier de tout ce que les parents pourraient avoir. Donc, en étant un peu seul, la découverte de la lecture était essentielle. Je lisais des livres qui n'étaient pas parfois ceux de mon âge.
Vous lisiez quoi, par exemple?
À l'époque, puisqu'il n'y avait que mon père qui avait des livres, qui ramenait de l'hôtel Victory Palace, et c'était pêle-mêle de romans policiers, de Gérard Devilliers, qui existait déjà à l'époque, mais aussi des bandes dessinées, de Tintin, de Spirou, Tex Willer, Zembla.
Tout ce qui vous tombait sous la
main. Tout ce qui me tombait sous la main, parce que je pensais qu'il fallait lire tous les livres, quels qu'ils soient. Et quand j'étais, par exemple, dans une situation où il n'y avait plus de livres et qu'il ne restait que les manuels de Weber de mathématiques, je lisais les équations, même si je ne les comprenais pas. Je pensais qu'il fallait dévorer tous les livres de la Terre pour pouvoir exister. Et donc, c'est ce qui m'a fait peut-être mettre à côté d'une enfance qui aurait pu être celle de tout le monde, allant danser à gauche et à droite, jouant au football. Cette sorte de solitude m'a empêché de jouer au jeu collectif. Je ne sais pas jouer au football, c'est pour ça que je ne regarde pas trop. Je suis plus porté vers les jeux individuels comme le tennis. Le seul jeu collectif que je supporte, c'est peut-être le basket. Et le sport individuel que j'aime serait plutôt de la boxe par rapport à l'histoire qu'il y a derrière. Donc je pense que...
Qui est presque un sport littéraire.
Qui est un sport littéraire quand on voit tout ce qu'on a fait. Norman Mailer qui a écrit des belles pages sur la boxe. Je pense qu'il y a une certaine littérature. Et quand on voit des personnages comme les Mohamed Ali qui ne sont pas que des boxeurs mais qui portent les droits civiques derrière eux.
Oui.
Voilà, qui refusent d'aller faire la guerre de Vietnam. Qui acceptent même qu'on puisse lui retirer sa ceinture de champion du monde. Il y a une littérature à faire derrière et les écrivains savent qu'il y a beaucoup à dire sur la boxe et que la boxe est par essence une discipline littéraire.
Vous êtes un enfant de la décolonisation, Alain Bamboncourt. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que j'ai vu que vous étiez allé au lycée Karl Marx, c'est ça? Donc, en réalité, c'était très marqué sur le plan idéologique, cette jeunesse.
Oui, c'était très marqué sur le plan idéologique. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes enfant, vous ne savez pas que vous êtes manipulé par une idéologie
bien
qui
sûr
n'est pas la vôtre. L'Afrique a été longtemps le théâtre de la plupart des idéologies occidentales. On a essayé le communisme là-bas, on a essayé la colonisation, on a essayé toutes sortes d'idéologies, le capitalisme, l'exploitation. Tout a été fait en Afrique et nous autres enfants étions en quelque sorte des cobayes naïfs. Vous savez que le cobaye, quand il rentre dans un laboratoire, il ne pense pas qu'il va être dépecé et qu'on va se mettre à étudier de façon infinitésimale sa constitution intérieure. Le cobaye rentre avec la confiance que l'être humain va le cajoler ou peut-être lui donner quelque chose à manger. Et à la fin, ça finit par le dépeçage. De la même manière, quand les animaux vont à l'abattoir, ils ne pensent pas qu'ils vont y suivre le couloir de la mort. Donc nous étions enfants comme des individus qui étaient entraînés dans un laboratoire dans lequel notre cerveau était retourné sous toutes les coutures et on injectait à l'intérieur toutes les idéologies. Et moi, j'ai reçu cette idéologie du marxisme-léninisme en lisant des textes qui n'étaient pas ceux de mon âge, le Capital de Karl Marx, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique allemande. Et on lisait tout cela avec la conviction que notre chance de réussir était d'être des vrais communistes, de vivre dans la discipline russe. C'est pour ça que nous avions parlé russe. Moi, j'ai parlé pendant longtemps la langue russe. Mais
ah,
bon,
vous parlez russe?
Voilà, je l'ai oublié. J'ai quelques bases, donc je peux comprendre. Mais c'était une période d'apprentissage comme des perroquets. Je ne la regrette pas parce que ça m'a permis un peu plus tard de constater comment le monde pouvait souffrir non pas des injustices physiques, mais de ce qu'on appliquait sur la morale d'un individu, comment on broyait le cerveau et comment on empêchait un individu d'exploiter sa capacité de réflexion.
Alain Mabankou, puisque vous parlez du russe, j'aimerais savoir quelles sont justement les langues de votre enfance. Parce que bon, le français, bien entendu.
Le français.
Le russe, bien sûr, un peu. Mais alors, les autres langues, il y a certainement...
Voilà. Donc, Au Congo-Brazzaville, nous sommes à peu près, si je prends large, 5 millions d'habitants. Mais dans ces 5 millions, il y a des centaines de langues. Chaque tribu veut faire sa petite langue, parle sa langue. Il y a des langues qui sont très proches, mais qui sont divisées à cause du lieu des tribus. Donc sur ces langues, en général, pour être tranquille, il faut en apprendre à peu près 7 ou 8. Donc j'en parle à ce jour, peut-être 7 langues congolaises, et je dois en comprendre une dizaine. Ajouter à cela donc la langue russe que nous avions apprise à cause de l'arrivée des Russes après les indépendances. Et puis, partant de là...
Vous avez failli dire de la colonisation russe.
De la colonisation russe.
Mais c'était pas
une,
faux,
c'était
pas
une
faux,
sorte ouais. de colonisation...
Oui, bien sûr, idéologique.
Idéologique, à la différence qu'elle a duré peut-être moins longtemps que la colonisation française et qu'elle n'avait pas forcément le même système organisé qu'avaient les colonisations occidentales. Donc je parlais le russe, j'en comprends la langue, et puis je parle un peu le créole haïtien à cause de mon amitié avec Dany Laferrière, puisque nous sommes souvent en Haïti, et je comprends évidemment que vivant aux États-Unis, inéluctablement, il faut que je parle l'américain. Donc, ce sont ces langues que je parle qui peuvent se résumer à peu près à une dizaine. La langue française, c'est naturel. Pour moi, je ne la considère même pas comme une langue française. Pour moi, c'est une langue africaine, puisque c'est en Afrique que je l'ai trouvée. On dit chez nous, je l'ai ramassée dans la rue. On n'a jamais considéré que c'était la langue française appartenait à la France. Elle appartient à l'individu qui estime qu'il peut trouver son épanouissement à l'intérieur. Dès lors que vous parlez la langue française, que vous écrivez la langue française, que vous respirez et mangez en français, c'est fini. La langue se détache de son pays d'origine, la France, pour devenir une langue qui voyage. L'intérêt de la langue, c'est de voyager. Si la France estime qu'elle doit enfermer sa langue dans une cage à l'intérieur de la France, c'est le début d'une chronique de la mort annoncée de la langue française. Il faut laisser la langue française porter des ailes de géant et traverser les océans pour aller porter le génie à l'extérieur.
Alain Mabankou, vos premiers textes, oui. Quand est-ce que vous les avez écrits? Est-ce que vous avez eu tout de suite envie de les publier ou pas? Vous étiez un adolescent c'est un peu plus tardif? Dites-nous un peu comment ça s'est passé.
C'était un processus donc progressif. Les premiers textes, j'ai commencé à les écrire quand je suis rentré pratiquement au collège, c'est-à-dire de la classe de troisième à la classe de seconde. C'était au départ de la poésie.
L'adolescence, quoi.
L'adolescence, voilà, c'était de la poésie. Mais bon, pas de la vraie poésie, c'était en général des petits chagrins d'amour. C'est pour ça qu'à cet âge-là, on a eu une admiration pour la poésie du romantisme, la poésie lyrique. On préfère lire les poèmes enflammés et lyriques d'un Alphonse de Lamartine, il est en train vraiment de se lancer dans le lac, l'isolement. Donc ça donne à son adolescence des réponses. Quand on a mal, il faut écrire. C'était ça la conception de la poésie que nous avions dans notre adolescence. Pour nous, la poésie, c'était cette discipline qui permettait à ceux qui souffraient de dire leur mal, leur malheur, afin de mieux respirer. Et peut-être que nous avions une définition très thérapeutique de la littérature. La littérature, pour nous, servait à dire les mots que nous avons. Une fois que nous les avions dits, ça nous permettait de respirer. Donc, en tant qu'adolescent, j'ai écrit beaucoup de poèmes que j'adressais le plus souvent aux petites copines que je voulais approcher, mais que la timidité ne me permettait n'acceptais pas forcément de franchir le cap. Je restais en quelque sorte celui qui écrivait beaucoup plus de poèmes et qui envoyait aux filles dans l'espoir qu'elles tomberaient amoureuses sans pour autant que je ne puisse prononcer un seul mot.
Mais en réalité, oui, la langue, ça sert aussi à séduire, ça sert aussi à faire du droit. Vous êtes juriste de formation. Oui. Moi, j'aime beaucoup, disons, la précision du français, par exemple. Je trouve que c'est une belle langue juridique, justement.
Voilà, il y a cette précision, mais il y a la nuance. La langue française est une langue qui a cette faculté de jouer avec les nuances. Donc, c'est... cette habitude des nuances, cette beauté des nuances qui fait que la langue française, pendant longtemps, a été la langue de la diplomatie, la langue de la courtoisie, la langue de l'élégance, la langue de la chevalerie. C'était une langue, et j'espère que ça le demeure. C'est pour cela que c'est presque un SOS que je lance à tous ceux qui parlent la langue française, de ne jamais penser que c'est parce que on peut tomber sous le charme de la concision de la langue française, qu'on pourrait facilement décrier la longueur de la langue française qu'on retrouve chez Proust.
Mais on entend l'amour que vous avez pour l'éloquence.
Je pense que c'est important. Oui, c'est important. La langue française refuse souvent les répétitions. Ce qui m'agace dans la langue anglaise, c'est l'accumulation des répétitions. La conjonction même de coordination et ET peut être répété chaque fois. En langue anglaise, ça alourdit. And. Et puis, on peut répéter. Mais en français, il faut trouver quelque chose. À côté du et, on peut dire, on peut trouver même quelque chose, néanmoins, cependant. Il y aura toujours quelque chose à remplacer, à mettre pour donner peut-être à la pensée plus de respiration, plus d'élégance. La répétition est peut-être la chose la plus dangereuse parce que en français, tout de suite, si vous vous répétez, on saura que vous utilisez un vocabulaire tellement étriqué que votre pensée elle-même risque d'être étriquée parce que vous ne lui donnez pas toute la latitude possible pour pouvoir s'installer.
Tout commence tout de même par la poésie, Alain Mabankou. Vous avez publié par des maisons d'édition africaines. En 1993, un premier recueil, Au jour le jour, est publié à la maison rhodanienne de poésie. En 1995, les éditions Nouvelles du Sud, qui étaient dirigées par Paul Dakeyo. Ensuite, vous publiez chez l'Harmattan dans Poètes des cinq continents. Et enfin, vous sortez alors votre premier roman, Bleu, Blanc, Rouge, et Présence Africaine. Présence Africaine qui est une grande maison, une très belle maison, qui est aussi d'ailleurs le nom d'une revue et qui a été fondée par un homme particulièrement génial, Alioune Diop. Est-ce que vous l'avez connu ?
Non, je ne l'ai pas connu parce que il est né avant que je ne vienne en France, parce qu'en ayant créé...
Il était beaucoup plus âgé que vous, ça c'est vrai.
Oui, oui. Bon, je pouvais...
Vous auriez pu le rencontrer...
J'aurais pu le voir puisque j'ai pu voir les Césaire qui étaient vivants, les Senghor, donc c'est contemporain. Donc je pense que en ayant créé cette maison... d'abord la maison, la revue en 47, puis la maison en 49, la maison Présence Africaine, ça devenait en quelque sorte le lieu même de prédilection de la littérature africaine en Occident.
Le lieu d'accueil.
D'accueil de la littérature africaine. Mais ce n'était plus que le lieu d'accueil de la littérature africaine, puisque dans cette maison d'édition africaine, on pouvait voir déambuler les Théodore Monod, les Jean-Paul Sartre, les Albert Camus, les André Gide, bref, tout ce qui, dans les années 30, 40, participait vraiment à l'émergence et à la libération des Africains, ce qui accompagnait. C'est pour cela que c'est parfois injuste de toujours penser que la littérature africaine ou ce qu'on appelle la pensée noire n'a été faite que par les Africains eux-mêmes. Et là, ils bénéficiaient aussi de l'apport de certains individus qui n'étaient pas forcément africains et même des grands philosophes. On a cité les Jean-Paul Sartre ou des ethnologues, des anthropologues qui sont venus. Donc je pense que c'est très bien aussi de considérer que lorsqu'on dit la pensée noire, ce n'est pas une définition raciste de cette pensée, mais il faut se mettre à l'esprit qu'il y a eu d'autres mains qui ont concouru à cela.
Est-ce que je voudrais vous poser une question, parce que, évidemment, pour moi, le mot « nègre » est un mot qui fait référence à l'art nègre, la musique nègre, ou aussi la revue nègre de Joséphine Baker, qui était quand même une très grande dame et une danseuse absolument géniale. Ce mot est très mal vu aujourd'hui. Les gens disent « black ».« Black », parce que même « noir » ne se dit pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce mot « nègre » ? Parce que ça a donné quand même le très beau mot de Césaire, la négritude.
Voilà.
Comment est-ce que vous évaluez cette détestation du mot par la jeune génération, alors qu'elle a plutôt marqué ma génération à moi comme un mot extrêmement positif. Enfin, tout ce qui venait de nouveau venait aussi de l'art nègre.
Oui, moi je pense que c'est peut-être aussi ce mot qui a pu donner une sorte d'attitude au noir, de pouvoir afficher une certaine fierté. Parce que dans les années 30, lorsque Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor et Léon Gontran Damas, avec bien d'autres, il y a aussi derrière l'apport des femmes que j'ai rappelé lors de ma deuxième leçon inaugurale consacrée à la négritude, des femmes comme les Paulette Nardal, les Nancy Cunard et beaucoup d'autres qui sont venues donner à la négritude une forme consistante. Le mot nègre, au départ, n'avait pas cette sorte de connotation peut-être humiliante.
Oui.
C'est à partir du XVIe siècle que ça a commencé à avoir une connotation humiliante en français, puisque en remontant, comme j'avais fait aussi dans la leçon inaugurale, on voit que même en l'an 23 après Jésus-Christ, Pline l'Ancien utilisait déjà cette sorte de négritude pour exprimer simplement la couleur ou le noir. Donc, l'acception même humiliante ne viendra que bien plus tard avec des théories qui seront développées sur la couleur, sur le statut du noir, et le nègre sera forcément presque synonyme de maudit, d'esclave, de celui qui vit dans la malédiction de Cham, etc., etc. Et je pense même que la négritude, et Césaire l'a dit, a commencé vraiment à prendre son élan lorsque on a voulu redonner à ce mot nègre une certaine valeur. Et en Amérique noire, on avait déjà commencé à dire black is beautiful.
Donc, oui, c'est ça.
Voilà. Donc là-bas, dire negro, donc c'était aussi les mêmes sortes de parallèles, de parallélisme. Negro, c'était l'insulte, et nègre devenait insulte. Mais ça dépendait de comment on le disait. Quand vous dites l'art nègre, ça donnait aussi une certaine époque. Je trouve même que pour une société française, avoir un certain complexe vis-à-vis du mot nègre, cela veut dire tout simplement que nous ne nous sommes pas encore parlé, que nous n'avons pas encore évacué certaines crispations qui datent de cette époque de la colonisation ou de la conception de l'Afrique comme le lieu des ténèbres. Lorsqu'on dit l'art nègre, la revue nègre, c'était écrit partout. Dans mes livres, j'utilise parfois le mot. Un de mes livres s'appelle « Les petits-fils nègres » de Vercingétorix. Un des livres de Dany Laferrière s'est intitulé « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». On trouve que si on dit « Comment faire l'amour avec un noir sans se fatiguer », ça n'a pas la même force.
Mais absolument.
Ça n'a pas la même force parce que quand je vois le mot « nègre », je vois l'histoire, je vois la patience, je vois un peuple qui se lève parce que la couleur noire a été pendant longtemps utilisée contre ce peuple pour le mettre de côté. Si vous lui enlevez ce mot « nègre », vous arrachez une partie de son histoire. Il veut voir, lorsque quelqu'un utilise le mot « nègre », quelle est l'attitude que a cette personne. Est-ce qu'il y a une frustration? Est-ce qu'il y a une liberté? Non, le mot « nègre » devait être utilisé de manière simple, sans pour autant avoir derrière la tête la honte d'avoir fait quelque chose de lourd, ou pour le nègre, le fait que on dise ce mot me rabaisserait. Au contraire, ça me donne la possibilité de rebondir et d'expliquer en quoi un des mots les plus beaux a été ruiné par les conceptions que nous avons aujourd'hui.
As soon as they were landed and sold, some would run away into the forest and join the Indians. No man wanted to be a slave. No man wanted to be a slave. It is a great story, that of the Negro in America.
En 2006-2007, vous co-signez avec quelques-uns des très grands noms du roman contemporain un manifeste pour une littérature monde. Parmi les signataires, Tahar Benjelloun, Didier Denex, Édouard Glissant, Nancy Houston, Denis Laferrière, Gilles Lapouge, Jean-Marie Laclaftine, Michel Lebris, Jean-Marie Leclésio, qui est votre grand ami, Amine Malouf, Éric Orsena, Gisèle Pinault, Boualem Sansal, enfin, etc. Et si j'ai bien compris l'esprit de ce manifeste, il s'agit de s'élever contre le ghetto littéraire.
Oui, oui.
Et donc, je cite une phrase, « Soyons clairs, l'émergence d'une littérature monde en langue française consciemment affirmée, ouverte sur le monde, transnationale, signe l'acte de décès de la francophonie. Personne ne parle francophone ni n'écrit en francophone. » Donc il s'agit bien de décentrer, de dénombriliser au fond la langue française pour accueillir tous les Français possibles. C'est un peu ce que vous dites.
Je pense que c'était une quête même de l'ouverture, parce qu'il y avait une sorte de diktat d'une certaine littérature. Les autres littératures s'écrivant en français, du Congo, du Cameroun, du Sénégal, ont toujours été considérées comme des petites rivières qui vont tomber dans le grand fleuve.
Des littératures mineures, vous voulez dire.
Des littératures mineures. Donc je pense que ce courant se justifiait justement dans ce sens, de se dire, voilà, nous sommes dans un nouveau monde et que la pensée ne peut pas seulement jaillir d'un seul endroit. Et que les plus grandes idéologies ont peut-être jailli des endroits qui sont considérés comme les minoritaires. Et qu'aujourd'hui, quand on fait le bilan de la défense de la langue française, ce n'est pas en France qu'elle est défendue. On ne peut pas attendre que l'Académie française donne des règles pour pouvoir faire quelque chose. La littérature est là pour défendre n'importe quelle langue dans laquelle elle est écrite. Donc le manifeste en question était un manifeste qui réunissait des gens de toutes tendances pour permettre aux textes écrits en français d'avoir des ailes, de pouvoir peut-être représenter l'ensemble des continents dans lesquels la langue française est parlée. Et ça évitait justement les écueils de la francophonie, parce que la francophonie, en général, est perçue en Afrique comme la continuation de la politique étrangère de la France par des voies détournées. Oui. On a toujours l'impression que la francophonie est là, mais quand le président français vient dans une réunion de l'Organisation internationale de la francophonie, on a l'impression que les autres présidents africains sont là comme des béné-oui-oui en écoutant le chef qui va parler, ce De Gaulle qui parle un peu aux autres. Donc nous ne voulions pas de cette francophonie, parce que quelle est cette francophonie dans laquelle la France n'est pas considérée comme un pays francophone, alors qu'elle est membre de la francophonie.
Ah oui.
Et qu'il existe d'ailleurs plus des gens qui parlent la langue française
ailleurs,
hors de la France qu'en France. Mm-hmm. La France, je sais pas, c'est pas 80 ou combien de millions d'individus qui parlent la langue française. Ailleurs, c'est une histoire des centaines de millions de gens qui parlent la langue française. Donc, on voulait refuser la définition d'une francophonie institutionnelle, d'une francophonie politique dans laquelle on ne pense qu'à nommer le prochain secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie. Et si la francophonie était prise en main par les écrivains qui écrivent en français, ça serait plus facile. Ça ne serait plus une histoire de francophonie institutionnelle, mais de francophonie culturelle. C'est ça qui manque à la francophonie actuelle. Le monde est un monde de confrontation de cultures et non de confrontation de politique. La francophonie actuelle est une francophonie politique. Par conséquent, elle ne ressemble pas au chant que nous sommes en train d'entonner à l'intérieur de nos livres. Elle ressemble plus aux décrets et aux lois que prennent les hommes politiques pour enfermer la pensée dans une certaine direction militante que nous ne souhaitons pas avoir.
Si vous en êtes d'accord, Alama Bankou, nous allons partir de quelques-unes des notions névralgiques que vous déployez dans votre cours au Collège de France. Mmh. Et alors, vous nous direz ce qu'il en est, quelles sont les questions qui sont soulevées. Mmh. Mais tout d'abord, j'aimerais juste que vous nous donniez des nouvelles de votre enseignement américain. Alors, voilà, votre enseignement donc porte sur la littérature francophone subsaharienne. Je suis allée voir sur le site de l'université. Mmh. Et sur la littérature afro-américaine. Alors, je ne sais pas comment vous traduisez African American Literature, mais je pense que bon. Mmh. Et cet enseignement, alors, vous le donnez, je crois, en français. Mmh. Alors, qui vient vous entendre? Qu'est-ce qui intéresse vos auditeurs, vos étudiants là-bas? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu...
Donc, ces enseignements sont suivis en majeure partie par les étudiants américains qui sont très intéressés en venant étudier la littérature africaine parce qu'ils ont pris conscience qu'en étudiant la littérature africaine, ils étudient aussi l'histoire d'un continent qu'ils connaissent peu. Parce que l'Amérique n'a pas une certaine histoire vraiment ancienne comme la France a avec l'Afrique. Donc, en venant là, nous avons la chance donc d'avoir des étudiants qui peuvent être inscrits en anthropologie, en histoire de l'art, en études américaines, mais qui viennent étudier la littérature, sachant qu'on ne peut pas enseigner la littérature africaine sans parler de l'histoire de l'Afrique qui est derrière. Parce que la littérature africaine est le résultat d'une présence, d'une volonté d'être présent dans l'écriture de l'histoire mondiale. Donc l'étudiant américain a vite compris que si j'étudie la littérature africaine en français, je prends la culture africaine, les cultures africaines, mais en même temps, je prends aussi la culture occidentale, la culture française, parce que ces écrivains, ces Africains ont été formés à l'école française, parce que ces écrivains africains ou ces profs africains qui enseignent Kuruma, qui enseignent Tierno Monenembo, qui enseignent des auteurs africains, ont lu Marcel Proust, ils ont lu Zola, ils savent qu'est-ce que l'affaire Dreyfus, ils connaissent de très près l'histoire de la société française et même la géographie, la gastronomie, parce que ils ont vécu dans ça, même sans se déplacer, puisque quand la colonisation est arrivée sur nous, elle a porté aussi sa culture. Les villes étaient divisées entre ce qu'on appelait la ville blanche et la ville des indigènes. Et nous, quand on allait dans la ville blanche, ça s'est resté même jusque dans les années 80, on avait l'impression de quitter un monde pour aller dans un autre. Parce que l'Européen, en ce temps-là, pour se déplacer, il a mené les éléments de sa modernité de l'époque. S'il y avait des ventilateurs, il les ramenait. Les pommes, il faisait tout pour les ramener par les cargos ou je ne sais pas par quel moyen. De la même manière, il ramenait ses radios. Tous les symboles de la civilisation de l'époque étaient en Afrique. Par conséquent, quand on allait à l'école, ce n'est pas l'histoire africaine qu'on étudiait, mais on étudiait l'histoire de France. Nous étions, nous trouvions normal, en commençant la leçon d'histoire, en disant que nos ancêtres, les Gaulois. Mais nous pensions que peut-être que parmi les Gaulois, il y avait aussi des Noirs, mais on les cachait. C'est pas grave, ça reviendra un jour. Donc on a appris vraiment cette histoire de France qu'on transfère à l'intérieur de ces enseignements. Donc 90%, voire même 95% de mes étudiants sont des Américains. Mais comme vous savez, la population américaine n'est pas uniforme. Donc c'est une population diverse, diversifiée, métissée. Donc dans cette population américaine, on va trouver des Asiatiques, des Noirs américains, ce qu'on appelle des Caucasiens, donc des Blancs, des Latino-américains. Donc il y a une palette très ouverte. Et il arrive que, de temps en temps, à l'intérieur de la classe, qu'il y ait des Européens. J'ai eu des Belges, des Français aussi, des Québécois. Donc, c'est des classes qui répondent aujourd'hui à la photographie du métissage. C'est ça qui est très important dans ces classes. Et moi, mon intérêt et même mon souci, c'est de faire de sorte que ces gens, ces étudiants soient tellement émerveillés qu'ils puissent même décider d'apprendre désormais la littérature africaine. Donc j'enseigne cette littérature-là, mais il arrive aussi que de temps en temps, pour changer, ne pas être dans la sclérose, que je retourne pour enseigner, je ne sais pas, le courant littéraire français, que j'enseigne le Parnasse, que j'enseigne le surréalisme, consacrant des cours sur Stendhal, en consacrant des cours sur Gérard de Nerval, ça arrive. C'est ça la force d'être un écrivain africain qui a étudié la littérature française en Afrique, qui enseigne la littérature africaine et qui, pour respirer, peut enseigner la littérature française.
Oui, vous tenez les deux bouts à la fois,
voilà,
en quelque sorte.
C'est cette culture de la dualité que j'apprécie. Et peut-être que ça devait faire réfléchir même le système éducatif français. C'est important de donner à la jeunesse française la possibilité de ne plus avoir qu'une culture qui tourne le dos à l'Afrique. Un jour ou l'autre, le petit Français qui avait 8 ans aujourd'hui, quand il aura 21 ans, il va se confronter à l'Afrique. Et c'est terrible pour lui de n'avoir rien à dire face à l'Africain qui est en face de lui et qui est en train de lui parler de sa propre histoire. Moi, j'ai vécu ça quand je suis venu en France. J'avais 21 ans. Je suis allé à l'université de Nantes. Ils étaient étonnés à la faculté de droit quand je commençais à parler déjà de ce qu'était la France avec mes amis. Mais ils n'avaient rien à me proposer lorsqu'il fallait parler de l'Afrique parce qu'ils n'avaient pas forcément étudié cela à l'école, même à l'école primaire, que ce soit au lycée ou à l'université. Donc ils ont réussi à être en première année de droit sans pour autant entendre parler qui était Chaka Zulu, qui était Sundiata Keïta, qu'est-ce que l'Empire du Mali, les manuscrits anciens, qu'il existait l'université de Tombouctou, que même dans l'époque de l'Antiquité, les Grecs venaient jusqu'en Égypte pour venir apprendre l'université d'Alexandrie. Donc l'Afrique n'était pas forcément les ténèbres. On essaye parfois de nous faire croire que l'Égypte ne fait pas partie de l'Afrique, poussant ça du côté de l'Orient pour éviter d'avoir l'ignominie de se dire que non, nous n'allons pas apprendre chez les Africains quand même. Mais eux, dans l'Antiquité, ils savaient. La cosmogonie même qui existait dans l'Antiquité de croire en l'âme ou bien au dédoublement. Mais nous les avions déjà. Si on étudie la philosophie bantoue, elle préexistait. Donc c'est cela aussi qui fait que demain la France sera grande si elle intègre cette sorte de sagesse et de pensée africaine à l'intérieur de sa pop culture. Ça permettra à la jeunesse française de sortir, d'aller à l'étranger avec une double culture. Ce qui fait que lorsque vous avez une double culture, vous pouvez continuer à accumuler les cultures et à devenir l'homme de demain, c'est-à-dire l'homme de bronze, le bronze étant l'alliage des métaux. Donc il ne faut pas simplement rester unique, unilatéral, mais il faut ouvrir les oreilles, ouvrir les yeux et être cet oiseau migrateur qui peut traverser toutes les saisons.
Alain Mabankou, vous allez faire cours sur, par exemple, les grandes thématiques de la littérature d'Afrique noire francophone.
Oui.
Quelles sont-elles, ces grandes thématiques?
Ces grandes thématiques sont nombreuses. Donc, il a fallu que je puisse cerner quelques-unes en allant puiser dans les romans majeurs. En général, ces thématiques épousent l'histoire du continent africain ou des nations africaines. Si on remonte à peu près au début du XXe siècle avec les premiers écrivains africains, ces écrivains prennent une thématique qui met en valeur presque la beauté et la sérénité d'une Afrique avant la colonisation précoloniale. Mmh. C'est-à-dire que dans leurs plumes, on a l'impression que avant la colonisation, l'Afrique était paradisiaque, c'était parfait.
L'âge d'or.
Voilà, les lions se promenaient à côté de l'enfant sans les dévorer. Donc il y a une certaine exaltation de l'Afrique précoloniale et qui, dans leur esprit, avait été troublée par l'arrivée du blanc. Mon rôle, c'est aussi de dire, c'est vrai qu'il existait cette Afrique précoloniale qui pouvait avoir sa structure bien arrangée, qu'on a troublée, mais dans une certaine mesure aussi, il existait forcément des conflits internes. Chaque société a toujours ses conflits. Chaque société peut avoir pratiqué aussi de l'esclavage. Donc, on n'aura rien appris parfois à ces sociétés. Donc, cette Afrique précoloniale existe aussi bien dans les contes et les légendes, dans les épopées comme l'épopée de Sundiata Keïta, dans les épopées de Shaka Zulu, etc. C'était une thématique basée sur la réécriture ou la relecture de l'histoire avant la colonisation. Puis vous avez par la suite la thématique qui va venir avec la colonisation, qui, elle, sera une thématique qui conteste l'image que l'Européen a peut-être faite de l'Africain, c'est-à-dire quelqu'un qui a été maudit, qui ne peut pas avoir une certaine réflexion, ou peut-être...
Ou inversement, voilà, du bon sauvage.
Du bon sauvage, etc., etc. Mmh. Donc, ça va épouser cela. Et pendant, avec les indépendances, on va avoir d'autres thématiques. Le blanc est parti, les noirs commencent à diriger. Qu'est-ce qui se passe? Ils installent des dictatures dans ces nations. Donc, les Africains pensaient s'être libérés avec les indépendances, ils se retrouvent avec une autre forme de domination, mais celle-ci est faite par le noir lui-même, qui peut être de connivence avec l'ancien colonisateur, et la population se retrouve dans une situation de désenchantement. C'est une des thématiques même de la littérature, le désenchantement qu'on retrouve à travers des œuvres comme « Les soleils des indépendances », d'Amadou Kourouma, qui montre comment la fin parfois de ces sociétés traditionnelles avec l'arrivée des indépendances a créé non seulement la dictature, mais aussi l'installation des partis politiques et du coup la création de ce personnage dictateur et même du rebelle, le rebelle qui va lutter contre la dictature et même plus tard aussi une société qui va se confronter à des conflits ethniques, à des guerres parfois civiles, et voire à des génocides, comme en 1994 au Rwanda, qui aura donné une certaine littérature de désenchantement, de fragilité, et peut-être même d'une Afrique qui se questionne. Donc c'est une balade qui ne peut pas, c'est vrai, être faite en une heure. C'est pour cela que je fais le maximum de resserrer ces thématiques, et puis de les étendre aussi au fur et à mesure que viendront mes invités pour les séminaires.
Alors, autre cours, par exemple, la réception critique et enseignement de la littérature africaine en France. Est-ce que vous pensez que la littérature africaine en France est bien connue, qu'elle est reçue par exemple les instances scolaires, universitaires
Oui, moi je pense que pour déjà la réception de la littérature africaine en France, on peut toujours dire que c'est déjà mieux qu'il y a 40 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, la littérature africaine ne peut plus être cloisonnée quelque part. C'est pour ça que j'ai toujours été contre les collections destinées aux Africains. C'est comme si on leur donnait une cage, mettez-vous là, vous êtes des Africains, vous restez dans une collection. Quand vous commencerez à bien écrire et à bien employer le subjonctif imparfait, vous passerez dans une vraie collection. Je n'aime pas le principe des collections de littérature pour les Africains.
Ce sont des ghettos, en effet.
Ce sont en général des ghettos qui me rappellent une sorte de division inexplicable et inexpliqué. Bien sûr, on viendra me dire que oui, mais il y a aussi d'autres collections qui ont été faites pour faire connaître une certaine littérature. Mais qu'on me donne le nom des écrivains que ces collections qui sont dans les ghettos ont fait connaître et qui occupent un rôle prépondérant dans le paysage littéraire français.
On retrouve les raisons du manifeste que vous avez signé, et dont vous êtes d'ailleurs un des instigateurs, mm-hmm. pour une littérature monde, justement.
Je pense. Mais écoutez, prenez l'exemple, puisqu'il faut le dire dans le sens. Si vous prenez l'exemple, par exemple, d'une collection comme Continent Noir, on publie des auteurs. Mais dès qu'ils deviennent connus, ils vont dans la blanche. Scholastique Mokwasonga a publié toute son œuvre dans Continent Noir. Et tout d'un coup, elle publie dans la blanche et elle s'en vante même sur son site. Ça y est, je publie dans la blanche, comme s'il y a eu une certaine libération. Donc, moi, je pense que quand on crée une collection, il faut la valoriser de telle sorte que même ceux qui sont dans la blanche en soient jaloux. Et non, parce que ceux qui sont à l'intérieur ne pensent qu'à en sortir. Je veux dire, Ananda Devi était dans la collection, est sorti. Mokwasonga vient de sortir. Apana Natacha est sorti. Sami Tiak est sorti. Gaston Paul Effa est sorti et est revenu. Donc, c'est aussi, il faut reconnaître qu'il y en a qui reviennent. Donc, je pense que je suis contre le principe de la catégorisation de la littérature africaine. Ça n'existait pas avant. Dans les années 20, dans les années 30, dans les années 50, les écrivains africains publiaient chez les grands éditeurs. Cheikh Hamidou Kan a publié L'aventure ambiguë aux éditions, je crois, Julliard ou plutôt 10-18. Les Amadou Ampeteba publiaient chez les grands éditeurs. Le Soleil des Indépendances aux éditions du Seuil, Le Devoir de Violence en 68 aux éditions du Seuil. Bref, les écrivains, je trouve même qu'on a fait une régression en faisant un acte comme si nous étions encore dans les années 30 ou 40 où il fallait défendre quelque chose, ou publier Léopold Sédar Senghor aux éditions du Seuil, ou publié Damas, c'est vrai, Présence africaine, c'est vrai, mais aussi chez les autres grandes éditeurs. Et ces écrivains étaient préfacés par Jean-Paul Sartre, Denos, et tous les écrivains ne se trouvaient pas de l'autre côté. Donc l'intérêt même de mon cours au Collège de France, c'est de vouloir banaliser, entre guillemets, la littérature africaine et qu'elle soit considérée comme une littérature comme une autre, comme faisant partie de la littérature d'expression
à part entière.
Et non une littérature qui serait pratiquement à côté, entièrement à part.
Ok.
Alors, vous allez aussi aborder à Lama Bankou un livre, une question très grave, qui a donné d'ailleurs lieu à un livre magnifique que vous avez traduit, de Ouzodinma Iweala, sur les enfants soldats.
Oui.
Ça, c'était un livre qui est paru chez L'Olivier, très grand livre.
Oui, c'est une.
Et qui touche à une des questions les plus brûlantes au fond de l'Afrique actuelle. Une langue difficile à traduire.
C'était une langue difficile à traduire. Je crois que Olivier Cohen, le directeur des éditions L'Olivier, à l'époque, avait estimé que c'était mieux que ça soit un écrivain qui le fasse parce que l'écrivain aura plus, ne se gênera pas de pouvoir prendre des libertés et à un moment donné réinventer une langue. Donc, moi, j'ai donné.
Parce que là, il y a une vraie invention de langue dans ce livre.
Il y a une vraie invention de langue. La version originale en anglais est une version dans laquelle c'est le pidgin qui est parlé, le pidgin nigérian qui mélange les langues du Nigeria, qui mélange tout à l'intérieur. Quand vous le lisez, en anglais ou en américain, vous avez même du mal à comprendre puisqu'il n'y a pas les mots dans les dictionnaires américains ou anglais. Et moi, de ce fait, en traduisant le livre, pour inventer une langue, j'ai inventé ou bien travaillé plutôt la langue de la rue congolaise. Donc, c'est ça aussi. La traduction n'est pas forcément suivre. J'ai traduit mon pidgin, puisque le pidgin étant comme une langue de la rue aussi, eh ben, ce personnage qui se trouve dans Bête sans patrie parle comme un Congolais. C'était ça peut-être aussi le pari, tout en gardant l'émotion, bien sûr, du livre d'Izondima Iweala avec l'histoire qui va avec.
Et vous avez aussi travaillé sur... écrire après le génocide des Tutsis au Rwanda, c'est un des grandes plaies du XXe siècle, ce génocide. Il y a le crime cambodgien et il y a le crime rwandais qui ont été quand même les deux grands crimes d'après le nazisme dans le monde. Est-ce qu'il y a eu des questions qui sont similaires à celles d'après le nazisme? C'est-à-dire, peut-on penser après Auschwitz? Peut-on écrire après un tel génocide, etc.? Est-ce que des questions semblables se sont posées chez les écrivains?
Ah oui, ça s'est posé avec une d'ailleurs acuité absolue, puisque les écrivains, je crois, s'étaient réunis dans les années 2000. Ils avaient été invités pour aller au Rwanda dans une opération appelée Devoir de mémoire, qui leur permettrait de pouvoir en quelque sorte témoigner, mais même après, parce que témoigner entre guillemets, c'est-à-dire écrire sur ces génocides afin peut-être aussi de vulgariser cette mémoire. Et donc, ça a donné des livres dont les plus forts et les plus intéressants sont ceux de Tierno Monenembo. Le titre, c'est « L'aîné des orphelins », paru aux éditions du Seuil. Ou alors « Mourambi », le livre des ossements de Boubacar Boris Diop, qui était paru aux éditions Stock. Et celui de Abdourahmane Ouaberi, qui avait aussi écrit justement sur le Rwanda. Donc, pour moi, c'était les trois livres qui avaient vraiment cristallisé la question. Vous avez des écrivains qui n'ont pas vécu les génocides, mais qui vont là-bas presque à l'intérieur de leur tête en regardant le désastre, en regardant ces squelettes, ces restes du génocide, ces musées qui sont là, et puis cette sorte de territoire montagneux, et ils nous ont écrit un témoignage vraiment touchant. Et puis il y a aussi de ce côté cette littérature qui se poursuit dans le témoignage. Si vous prenez, tout à l'heure j'ai parlé des livres de Scholastique Mokassonga, qui fait une œuvre de témoignage intéressant sur le Rwanda. Si aussi vous prenez des études de Catherine Kokyo, qui sera mon invitée ici au Collège de France quand je parlerai de cette question du génocide. Catherine Kokyo, beaucoup même d'intellectuels ou d'écrivains ou d'universitaires français ont écrit sur le Rwanda. Si vous prenez les essais écrits par Jean Asfeld, par exemple Une saison des machettes, La stratégie des antilopes, Dans le nu de la vie, qui sont des retranscriptions, parfois des paroles de ceux qui ont été les responsables du génocide, donc les tueurs, ou alors les familles des victimes ou des rescapés. Donc il y a toujours ce génocide qui est en train de s'écrire sur le texte, mais qui a modifié finalement dès 1994 la manière d'écrire en Afrique. Cette liberté qu'avait l'écrivain d'écrire en se disant que le monde ne connaîtrait pas des horreurs et que nous pensions que ces choses ne se passaient que ailleurs, eh bien ça a modifié et le statut de l'écrivain et peut-être la perception de ce qu'il écrit auprès des Africains eux-mêmes.
Est-ce que à Lama Bankou, les Africains sont conscients? Il y a une classe moyenne actuellement qui se dégage. On voit bien dans les informations quand on écoute, d'ailleurs des gens fort courageux qui, dès qu'il y a une élection, risquent leur vie, vont dans la rue, protestent. Donc il y a une classe très éveillée actuellement politique et courageuse en Afrique. Est-ce que ces gens qui sont en fait très éduqués, très avides de savoir les choses, s'intéressent beaucoup à leur propre littérature?
Vous savez, beaucoup des nations africaines sont sous le joug de la dictature. Encore mon propre pays, au Congo-Brazzaville, où un président est accroché au pouvoir depuis 32 ans, Denis Sassou Nguesso, trafique la constitution pour rester encore pendant 5 ans, sinon plus, c'est-à-dire décider pratiquement de mourir au pouvoir, ça ne se fait pas. Et donc, au lieu de s'occuper de la culture, vous pensez bien que ces instances vont s'occuper plutôt de savoir comment ils vont garder le pouvoir. Donc, c'est toute une jeunesse africaine qui se trouve coupée de la création littéraire, artistique et culturelle africaine qui se fait à l'extérieur de l'Afrique. À l'intérieur, il n'y a pas cette création au Congo-Brazzaville, parce que tout est muselé, parce qu'il n'y a pas les moyens pour le faire, et parce que les ministres qui sont sur place pensent plus à accumuler les richesses que de faire de la culture leur programme.
Vous voulez dire que, actuellement, dans l'état actuel des choses, la littérature africaine est une littérature de l'exil?
C'est une littérature. Ça ne change pas, puisque ça s'est toujours fait aussi entre ce qui se faisait à l'intérieur et ce qui se faisait à l'extérieur. Mais sauf que, à l'époque, quand vous aviez des présidents comme Léopold Sédar Senghor, qui avait un budget de la culture plus élevé même que celui de la France. C'était le budget de la culture le plus élevé qu'il avait mis au Sénégal. C'est pour cela que, intellectuellement, le Sénégal a une grande avance, parce que c'est un pays qui a toujours su respecter la culture, nous donnant les personnages les plus intellectuels du continent africain. On parle de Léopold Sédar Senghor, mais derrière aussi, il y a sur le plan de la musique des gens qui ont fait des Youssou N'Dour, qui ont fait des choses extraordinaires. Des intellectuels continuent à se montrer du côté de du Sénégal. Souleymane Bachir Ndiaye, Mamadou Diouf sont des grands intellectuels. Mais regardez le tas de désespoir parfois du côté de l'Afrique centrale, où il y a encore les dictatures, hein, parce que le problème aujourd'hui, c'est cette Afrique centrale. Quand vous la voyez au Gabon, c'est l'enfant de l'ancien président. Au Congo, c'est le même pendant 30 et quelques 40 années, il va faire. Mais quand vous allez du côté de l'Afrique de l'Ouest, les transitions se font. Le Bénin vient de faire une transition électorale très intéressante, démocratique, sans heurts. Au Nigeria, il y a eu une transition électorale sans heurts. En Afrique du Sud, il y a eu des transitions électorales sans heurts. Mais en Afrique centrale, quand il s'agit de passer le pouvoir, les vieux dinosaures veulent encore entrer dans l'époque moderne au lieu d'aller se reposer tranquillement, cultiver son jardin, écrire ses mémoires. Regardez les autres présidents du monde entier. Ils écrivent leurs mémoires, ils laissent à la postérité quelque chose. Mais demandez à ces dictateurs, s'ils quittent le pouvoir, ils sont obligés de se demander « Est-ce que la Cour pénale internationale va m'attraper ?» Voilà la raison qui fait qu'ils se raccrochent au pouvoir. C'est la peur de finir à la Cour pénale internationale. Et par voie de conséquence, c'est la culture qui en pâtit. J'ai fait ma leçon inaugurale ici. 4 des ministres de François Hollande étaient ici. Il n'y avait personne du Congo-Brazzaville. Alors que c'est la première fois même dans l'histoire du Congo qu'un professeur va enseigner, venant du Congo, va enseigner au Collège de France. C'était la même chose. J'ai eu le prix Renaudot, on a fait la fête ici, personne n'y était. Donc moi, ça ne me dérange plus. Moi, je suis désormais ce citoyen qui fait le tout pour que la culture rentre, non pas qu'au Congo, mais dans toute l'Afrique, par rapport à ces jeunes qui m'écrivent, par rapport à tous ces Africains qui payent leur ticket pour rentrer dans un cybercafé pour écouter les leçons du Collège de France et m'écrire en disant « Professeur, est-ce que j'ai pas bien entendu telle réponse dans la vidéo ? Est-ce que vous pouvez ?» Tous les jours, il y a toujours un Africain qui m'écrit dans n'importe quel pays pour me dire « Je viens d'écouter la leçon inaugurale, je viens d'écouter ceci. » Et ça fait plaisir. Et imaginez qu'au Congo, il arrive qu'on coupe les moyens de communication pendant une semaine juste pour faire des élections présidentielles, coupant ainsi les jeunes de la culture.
Merci beaucoup, Alama Bankou. Merci infiniment.
Merci.
C'était Éloge du savoir, le Collège de France, avec aujourd'hui Alain Mabankou, titulaire de la chaire de création artistique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France et vous pouvez télécharger cette émission sur le site franceculture.fr. Réalisation, Anne Sécheret. Présentation, Christine Goémet. Rendez-vous demain pour la suite du cours intitulé « Lettres noires, des ténèbres à la lumière ». Belle journée à tous, à l'écoute de France Culture.